Le journal Clémentine Vergniaud, bonsoir.
Bonsoir. Violence, gaz lacrymogène, utilisation de lanceurs de balles de défense, les forces de l'ordre souvent pointées du doigt depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, eh bien deux policiers vont comparaître devant un tribunal correctionnel. Le gouvernement pas vraiment raccord sur les retraites, clause du grand-père pour le Premier ministre, pas pour le haut-commissaire, recadré, vous l'entendrez. Dans ce journal également, la mort cérébrale de l'OTAN, la petite phrase d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup réagir à l'international, et puis la photo de famille, sa grande dit pour l'homme avec un nouvel ancêtre qui remonte à 11 millions d'années.
France Inter.
C'est une première depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, des policiers devant la justice. Les Gilets jaunes ont souvent pointé du doigt les forces de l'ordre, violence, gaz lacrymogène, utilisation de lanceurs de balles de défense. Beaucoup de Gilets jaunes ont eux-mêmes comparu devant la justice pour des violences sur des policiers. Cette fois, c'est l'inverse. Le parquet de Paris annonce que deux policiers vont comparaître devant un tribunal correctionnel. Emmanuel Leclerc.
Oui, le brigadier à un CRS de Toulouse a fait un retour à l'envoyeur, affirmant qu'il n'avait malgré tout pas visé directement les manifestants, que le pavé n'a touché personne. Il n'y a d'ailleurs pas eu de plainte, un geste qualifié de non conventionnel par la police des polices. Mais le procureur de la République a décidé de renvoyer quand même ce CRS en correctionnel pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Sur le papier, le policier risque 3 ans de prison. Son collègue, également renvoyé devant le tribunal, est poursuivi. Lui, pour une gifle pour une insulte, le parquet de Paris a donc estimé que ce n'était pas du tout proportionnel, d'autant que la victime a obtenu une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, ce qui est déterminant en matière judiciaire, car le policier risque, toujours sur le papier, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Ces deux procès auront lieu dans les prochaines semaines.
Alors ça, ce sont pour les cas entre guillemets les plus simples, mais certains dossiers sont beaucoup plus sensibles, Emmanuel.
Oui, en tout cas, il reste les 18 procédures qui ont fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire diligentée par des juges d'instruction. Ce sont les cas les plus graves, de mains arrachées, la perte d'un œil ou de passage à tabac, comme à l'intérieur d'un Burger King au mois de décembre, il y a bientôt 1 an. À noter que 72 procédures sont encore en cours d'analyse par les magistrats du parquet de Paris, qui concentrent à eux seuls une grande majorité des procédures menées actuellement en France.
Et par ailleurs, 54 procédures ont été classées sans suite, soit parce que l'infraction n'était pas clairement caractérisée, soit parce que l'auteur n'était pas identifiable. Une enquête préliminaire pour mise en danger de la vie d'autrui ouverte dans la Loire après des plaintes de 7 ex-salariés d'un laboratoire près de Rouen. Ils accusent leurs dirigeants de les avoir exposés à des concentrations de chloroforme beaucoup trop élevées, et ce, pendant plusieurs années. La direction du laboratoire reconnaît dans un communiqué des dysfonctionnements très importants. 15 ans de prison, peine requise par l'avocat général contre Claude Chaussat, cet ancien de la Brise de Mer. Une bande criminelle corse se présente comme un repenti de la mafia. Il est actuellement jugé devant les assises des Bouches-du-Rhône pour complicité dans l'assassinat en 2008 de Richard Casanova, cofondateur de la Brise de Mer. Il y a de la friture sur la ligne entre le haut de l'exécutif et Jean-Paul Delevoye. Le haut commissaire chargé du dossier des retraites assure dans les colonnes du Parisien que la clause du grand-père reviendrait à créer un 43e régime. Cette clause, elle permettrait de n'appliquer la réforme qu'aux nouveaux entrants. Mais pour Jean-Paul Delevoye, ça risque de créer une coupure générationnelle. C'est ce qu'il disait au téléphone sonne.
Si nous ne réembarquons pas la confiance des jeunes qui aujourd'hui disent à quoi ça sert de cotiser, demain ils auront la même attitude pour l'assurance maladie, ils auront la même attitude pour l'assurance chômage. Et c'est la fin de ce qui fait la force de la nation française.
Sauf que cette clause a été remise sur la table par Emmanuel Macron il y a une dizaine de jours pour apaiser la colère en prévision de la grève du 5 décembre. Conséquence, le gouvernement a durci le ton à l'issue du Conseil des ministres via la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Il y a une seule ligne, elle est portée par le Premier ministre de toute évidence. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et qui, à ce titre, met en œuvre la politique qui lui est demandée par le Président de la République.
Le couac donc du gouvernement. Côté syndicat, pour l'instant, une seule ligne, celle du 5 décembre. 4 organisations syndicales appellent à la mobilisation. Une étude au cas par cas, voilà ce que promet Christophe Castaner à chacun des 1600 migrants évacués des 2 campements du nord-est de Paris ce matin. L'essentiel est de faire en sorte que les sites ne se reforment pas, a précisé le ministre. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale a voté les amendements au budget de santé 2020 proposés par l'exécutif concernant la couverture santé des migrants. Ils auront désormais désormais besoin d'une autorisation préalable de la Sécurité sociale pour certains soins non urgents. Et dans certains cas, ils devront attendre 3 mois pour bénéficier de l'aide médicale d'État. Une procédure simplifiée pour indemniser plus rapidement les victimes de la dépakine. L'Assemblée nationale vient de voter un nouveau mécanisme. Une seule instance examinera les demandes, contre 2 à l'heure actuelle. La dépakine, c'est ce médicament utilisé pour soigner l'épilepsie ou des troubles bipolaires. Il a engendré des malformations ou des troubles neurologiques chez les bébés lorsqu'il était pris par des femmes enceintes. Un centre commercial, des complexes de loisirs, des hôtels et même une piste de ski intérieur, voilà ce à quoi aurait dû ressembler Europa City. Projet colossal de 80 hectares dans le Val d'Oise qui aurait dû voir le jour en 2027. À la clé, 10 000 emplois sans compter la construction, mais l'État a dit non. L'Élysée ne veut plus de ce méga complexe. Pourquoi cet abandon, Sandy Dauphin ?
Il n'est plus compatible avec les ambitions vertes du gouvernement, a expliqué Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique.
C'est un projet qui répond à une conception datée de l'aménagement du territoire et d'un certain modèle de consommation qui ne répond plus aux attentes de nos concitoyens. Europa City participe au développement de centres commerciaux toujours plus grands en périphérie de nos villes. C'est un modèle qui a largement contribué à la crise du petit commerce ces dernières décennies, à la dévitalisation du cœur de nos villes et de nos bourgs, ainsi qu'à une dépendance toujours plus forte à l'automobile.
Sans compter qu'Europa City, c'était 3500 voitures de plus à l'heure de pointe sur des routes déjà saturées du nord de Paris.
On range donc les ambitions démesurées, Sandy, mais pour mettre quoi à la place ? Quel est le nouveau projet de l'État ?
Europa City, c'était quand même la locomotive d'un projet d'aménagement plus vaste du triangle de Gonesse près de Roissy. Pas question de mettre un terme à cette zone d'aménagement concerté de 300 hectares lancée il y a 30 ans. Une mission va plancher avec les élus locaux sur un projet alternatif plus durable. Ce soir, les opposants attendent de voir cette nouvelle copie avant de crier complètement victoire.
Et pour ceux qui soutenaient le projet, c'est forcément de la déception. Un membre du collectif Des Vrais Gens dit ressentir un mépris de la part du gouvernement pour la banlieue. Le maire de Gonesse parle, lui, d'une exécution en règle sans autre forme de procès. Une nouvelle alerte sur la toxicité de produits très utilisés par les agriculteurs, les SDHI, des fongicides dont la dangerosité avait déjà été pointée du doigt l'année dernière. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, a estimé en janvier qu'il n'y avait pas d'éléments pour justifier une alerte. Mais une nouvelle étude d'un laboratoire de l'INSERM conclut à la toxicité de ces produits. Moscou salue des paroles sincères de la part d'Emmanuel Macron. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo défend, lui, un partenariat stratégique essentiel. Beaucoup de réactions aux propos du président de la République sur l'OTAN. Dans un entretien à l'hebdomadaire The Economist, Emmanuel Macron estime que l'Alliance Atlantique est en état de mort cérébrale, un tableau très sombre des relations internationales qui vise surtout l'Europe. Pour le chef de l'État, elle est en état d'extraordinaire fragilité, Louise Baudet.
Mine inquiète et manches retroussées en une de l'hebdomadaire britannique. À un mois du prochain sommet de l'OTAN à Londres, Emmanuel Macron prévient « L'Europe est au bord du précipice, minée par ses divisions, agrippée au totem des 3% de déficit. Débat d'un autre siècle », dit-il, alors qu'il faudrait investir massivement comme le font la Chine ou les États-Unis. Deux puissances dont le face-à-face marginalise l'Europe. Europe fragilisée aussi à ses portes par l'autoritarisme russe et turc. Europe abandonnée enfin par le grand frère américain qui regarde ailleurs et qui plonge l'OTAN dans un état de mort cérébrale. Formule choc, un mois après l'offensive turque dans le nord syrien, une agression unilatérale menée par un membre de l'Alliance Atlantique et un énorme problème, assène le président français qui exhorte l'Europe à muscler sa défense et à repenser sa souveraineté, sinon elle disparaîtra. Vision radicale que ne partage pas Angela Merkel. La chancelière allemande désapprouve ce soir le diagnostic sur le fond comme dans le ton employé. Pour elle, l'OTAN demeure la pierre angulaire de notre sécurité.
Emmanuel Macron et Angela Merkel qui auront sûrement l'occasion d'échanger sur les propos du président français dimanche. Le chef de l'État est invité par le président allemand pour le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. L'Élysée annonce ce soir qu'il va aussi rencontrer la chancelière. Un moment de réflexion sur l'héritage de 1989 et le sens du projet européen. Voilà le menu. L'accent sera mis aussi sur l'importance du couple franco-allemand, précise l'Élysée. Trois ONG affirment qu'un site du groupe Total a abrité une prison prison secrète au Yémen. Elles assurent qu'il a été utilisé comme un lieu de détention par des soldats des Émirats Arabes Unis entre 2017 et 2018. Le site est exploité par une compagnie pétrolière en partie contrôlée par Total. Le groupe pétrolier français affirme ne pas avoir d'informations concernant ce qui est fait sur ce site yéménite. L'attitude de l'Iran n'est pas acceptable. Voilà ce que dit ce soir l'AIEA, le gendarme du nucléaire mondial qui dépend de l'ONU, après qu'une inspectrice en déplacement en Iran a été empêchée de quitter le pays. C'était la semaine dernière. Téhéran a mis en avant des traces de substances explosives trouvées sur cette femme et assure qu'elle a rapidement pu quitter le pays. Faux, rétorque l'AIEA, qui dit vouloir clarifier la situation. Et justement, une étude vient de se pencher sur les relations internationales du pays des Mollahs. Elle est signée par l'Institut international d'études stratégiques de Londres et elle montre que Téhéran est toujours aussi puissant malgré les pressions internationales. Christian Chéneau.
Les Iraniens sont devenus les champions de la guerre asymétrique. La République islamique a mis en place une stratégie d'effet maximum pour un coût minimum, explique le rapport. Une stratégie qui passe par des alliés locaux comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou encore les milices chiites en Irak. Autant d'acteurs non étatiques derrière lesquels l'Iran peut se dissimuler et téléguider des opérations de déstabilisation. Les modes opératoires qui permettent à Téhéran d'agir au-delà de ses frontières sont très variés. Attaques de missiles ou de drones, opérations contre les soldats américains en Irak, perturbation du trafic maritime dans le golfe Persique ou encore cyberattaque contre Israël et les pays du Golfe. Ces différents types d'actions sont exécutées par la force Al-Quds, unité des gardiens de la révolution pour les opérations extérieures. Elles sont très efficaces selon le rapport de l'Institut international de recherche stratégique de Londres qui estime que plus l'Iran sera sous pression américaine, eh bien plus il utilisera son pouvoir de nuisance au Moyen-Orient.
Les explications de Christian Chéneau. Et si nous avions appris à marcher bien plus tôt que ce que l'on croyait? Notre ancêtre la plus ancienne jusqu'ici, c'était Lucie, l'Australopithèque découverte en Afrique. Elle vivait 3 millions d'années avant nous, mais une nouvelle étude parue dans la revue Nature remonte bien plus loin. Des chercheurs ont découvert un singe bipède, le Danuvius guggenmosi. Il est âgé, lui, de plus de 11 millions d'années, Sophie Becherel.
Oui, à cette époque-là, 11,62 millions d'années, l'Europe était plus chaude qu'aujourd'hui, on est au Miocène et la végétation tropicale favorise la présence d'une faune abondante, diversifiée, dont plusieurs espèces d'hominidés. Parmi elles, ce singe Danuvius, son torse est large, sa colonne vertébrale et ses bras sont longs. Quant à sa posture, les restes fossiles découverts, un bout d'orteil, un cubitus, un fémur, un tibia, une rotule des vertèbres appartenant au total à 4 individus, ces restes donc ont permis de décrire un singe qui grimpe aux arbres, mais qui marche aussi. Écoutez Guillaume Davert, paléo-anthropologue et maître de conférence à l'université de Poitiers.
Là, ce que ça permet de montrer, c'est que clairement, on a un grand singe qui n'était pas bipède terrestre, mais bipède arboricole. Quand vous commencez à avoir une certaine stature, parce que là, on a un individu qui faisait entre 17 et 30 kilos, une assez grande taille pour un primate, la stratégie, si on veut se déplacer dans des contextes compliqués, comme un couvert forestier, la stratégie, c'est de se redresser et de se maintenir grâce à des branches qui sont situées en surplomb, et de se déplacer en bipédie.
Jusqu'ici, on datait cette bipédie de 7 millions d'années et on la situait en Afrique. On disait que c'était la transformation d'un paysage de forêt en savane qui aurait conduit les australopithèques et autres hominines à se redresser. Danuvius rebat les cartes. D'accord, il ne marche pas encore sur le sol, mais sur des branches. L'absence d'arbres ou un terrain escarpé n'y sont pour rien. Voilà qui conduit à penser plusieurs formes de bipédie en plusieurs endroits. Et comme les grands singes ont disparu d'Europe, il y a 8 millions d'années, eh bien Danuvius n'est pas notre ancêtre marcheur. Celui-là, les paléontologues le cherchent toujours.
Dans quelques millions d'années, on l'appellera peut-être le Danuvius trottinetus. Qui sait, toujours est-il qu'il va apprendre à circuler, cet homme à trottinette. La première formation à la conduite de trottinette électrique est lancée à Marseille. Information révélée par France Bleu Provence. Le principe, ceux qui préparent le permis auront des cours de conduite de trottinette en plus des cours de code. Pas de surcoût à la clé. Le Stade Rennais, éliminé de la Ligue Europa en phase de groupe, les footballeurs bretons s'inclinent 1-0 sur la pelouse des Romains de Cluj. Ce soir, Saint-Étienne signe un nul face aux Ukrainiens d'Alexandria. La météo.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Quel temps pour demain, Sébastien Léas?
Après plusieurs jours perturbés, le sud-ouest ne verra toujours pas d'amélioration demain avec une nouvelle journée marquée par des nombreuses averses et une ambiance ventée. Les averses seront plus fréquentes au sud de la Garonne avec des risques d'orage, voire du grésil. D'autres averses plus localisées se développeront aussi le long de la Manche et des bords de la Loire, aux Charentes jusqu'à l'ouest du Massif central, arrosant surtout le Limousin. L'ouest de la Corse aura aussi beaucoup de pluie demain, en particulier en matinée, alors que les éclaircies seront belles sur l'est de l'île. Sur le reste du pays, le temps sera plus clément, même si quelques averses ne sont pas exclus sur le relief de la façade est en matinée et sur le Languedoc-Roussillon demain après-midi. Les grisailles seront tout de même fréquentes, notamment entre la vallée du Rhône, le Val-de-Saône et le plateau lorrain, mais des éclaircies se dessineront avec un temps plus lumineux l'après-midi. Les températures maximales baissent et seront comprises entre 6 et 17 degrés.